aussi bas. Vous avez sans doute la vécu, mais moi, ça m'aurait puni.
Je suis stupide, mais c'est pas grave, parce que j'écoute trop...
Attention. Certaines archives utilisées dans cette émission à des fins complémentaires et historiques contiennent un langage ancien aujourd'hui connoté à des idées racistes et offensantes. Celles-ci ne reflètent en rien les pensées des traducteurs. Nous invitons nos auditeurs et auditrices à faire preuve de discernement et de vigilance quant aux propos employés et vous souhaitons une agréable écoute.
Président Pitzer, Monsieur le Vice-président, Gouverneur Daniel, Messieurs les scientifiques, Mesdames et Messieurs.
Un négro de 29 ans déclare avoir atterri dans l'espace. Il s'agit du capitaine Edward White de l'Air Force, sélectionné pour être astronaute, le premier de sa race à être ainsi désigné.
J'aurais pu aller sur la Lune.
Je vous assure que mon premier discours sera très bref.
Mais il n'allait pas laisser ça se faire.
Le capitaine Dwight et sa famille ont appris la nouvelle à leur domicile à la base aérienne d'Edwards, en Californie.
Et je savais qu'il y allait avoir une composante raciste à cet obstacle, mais je ne savais pas qu'elle allait être aussi sophistiquée et aussi déterminée.
Rêve d'astronaute anéanti, Dwight a quitté l'Air Force en 1966.
Donc j'ai tout arrêté pour avoir un master, et en 6 mois, j'étais à la tête du département sculpture de l'université de Denver.
Depuis, Dwight a créé près de 20 000 œuvres de galeries et plus de 130 mémoriaux à travers le pays.
Nous avons choisi d'aller sur la Lune. Nous avons choisi d'aller sur la Lune.
C'est au tour d'Ed Dwight d'entrer enfin dans l'histoire et d'accéder à son rêve. Dimanche dernier, il s'est envolé dans l'espace à bord de la fusée Blue Origin de Jeff Bezos, le patron d'Amazon.
Je pensais vraiment que je n'avais pas besoin de ça dans ma vie.
Un voyage d'une dizaine de minutes avec 5 autres passagers, suivi d'un retour sur Terre en douceur et d'une sortie de capsule éblouissante, reconnaissante et sans rancune.
Mais maintenant, je vois bien que j'en avais besoin.
Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore. Non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire. Parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard.
Well, my name is Ed Dwight. I'm from Kansas City, Kansas, which is...
Je m'appelle Ed Dwight. Je viens de Kansas City, au Kansas, qui est l'un des États à l'est d'ici, au Colorado. Et j'ai rejoint l'Air Force à l'âge de 18 ans. Et je suis devenu pilote dans l'Air Force. 7 ans plus tard, j'ai été sélectionné pour être le premier candidat astronaute afro-américain. Mais je ne suis pas allé dans l'espace. C'était en 1960. J'ai été nommé par le président Kennedy pour être le premier astronaute afro-américain. Et je n'ai pas, encore une fois, je ne suis pas allé dans l'espace. Mais j'ai quitté l'armée, quitté l'Air Force, et je suis devenu sculpteur. Et donc, je suis sculpteur depuis 50 ans, et partout aux États-Unis, je fais des mémoriaux sur l'histoire des Noirs. Et c'est ce que je fais depuis les 60 dernières années. Et récemment, après 60 ans de travail, en tant que sculpteur, on m'a demandé si je voulais aller dans l'espace. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans l'espace. Et je suis devenu la personne la plus âgée à avoir jamais voyagé dans l'espace. Et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui.
Première partie. Introduction. La vie de pilote d'essai. Premier candidat astronaute noir et racisme. Merci beaucoup, Ed Dwight, de nous avoir accordé cet entretien exclusif ici sur Radio Campus. Intéressons-nous d'abord à la première partie de votre vie en tant que pilote d'essai. Tout d'abord,
une fois votre diplôme d'ingénieur obtenu, pourquoi vous êtes-vous orienté vers ce secteur de l'aviation? Pourquoi vouliez-vous voler?
Tu me demandes pourquoi je voulais être pilote, c'est ça?
Oui, oui.
Eh bien non, je me suis engagé dans l'Air Force pour pouvoir voler. J'ai grandi près d'un aéroport et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'aviation quand j'étais petit. Et c'est pourquoi j'ai rejoint l'Air Force, parce que je voulais voler. Et donc, j'ai passé les formations et j'avais beaucoup de succès en tant que pilote. Et j'étais un officier de l'Air Force, bien sûr. Vous deviez être un officier. Évidemment, et je ne pilotais que des avions normaux pendant les 9 premières années de ma carrière. Tu sais, quand t'apprends, quand t'es en formation, tu pilotes des avions à hélice, tu sais. Et ils sont lents, et ils font beaucoup de bruit. Et en montant dans un jet, il n'y a pas de bruit. Parce que le moteur est derrière toi. Et tu n'entends pas de bruit, ou à peine. C'est très calme. Mais il faut réfléchir plus vite, parce que tout se passe beaucoup plus vite. Dans les vieux avions, il y a beaucoup de bruit. Tout se passe lentement. T'y vas, tu décolles, lentement, l'atterrissage est lent. Mais quand tu montes dans un jet, tout se passe vraiment très très vite. Et ça t'oblige à penser beaucoup plus rapidement, tu sais. Pour moi, ça avait quelque chose de personnel. C'est comme si j'étais né pour faire ça. Tu sais, de temps en temps, tu tombes sur quelque chose dans la vie qui est naturellement facile pour toi à faire. Faire voler des jets, c'était fou. C'était tellement facile parce que ça correspondait à la façon dont mon cerveau fonctionnait, ou quelque chose comme ça. Et c'était comme décoller, le piloter, le faire tourner, faire des écrevisses et tous ces trucs, tu vois. C'était facile. Alors je me suis laissé aller. Et c'est pourquoi, une fois, j'ai fait un vol en solo, tout seul. Et jamais personne n'avait fait ça. Ils ont dû appeler le Pentagone pour obtenir la permission que je puisse voler après un tour, après un vol. Et ils m'ont donné la permission. Et c'était juste magique. Tout se passait très facilement. Alors tu sais, je me suis laissé prendre au jeu. Et donc après ça, avec tous ces vols, quand j'ai de nouveau piloté des avions à hélice, parce que de temps à autre, tu dois piloter n'importe quel type d'avion qu'il t'ordonne de piloter, n'est-ce pas? Tu dois le voler. Et donc, je devais être patient avec les avions hélice parce que tout allait si lentement. Je me disais, oh, allez, plus vite, plus vite. Alors qu'un jet, c'est vraiment très rapide. C'était parce que j'avais beaucoup de temps de vol et un diplôme d'ingénieur qu'il fallait avoir pour être astronaute. Il fallait avoir un diplôme d'ingénieur, beaucoup de temps de vol et moins de 30 ans. J'avais donc 27 ans et j'avais pas mal de temps de vol. Alors on m'a proposé. Je n'ai pas postulé pour être astronaute. J'ai reçu une lettre en courrier qui me demandait si je voulais devenir astronaute. Et bien sûr, au début, j'ai dit non, parce que c'était très tôt dans l'exploration spatiale, dans les années 60. Personne ne savait grand-chose à propos de l'espace. Ce que ça faisait, si c'était risqué ou quoi que ce soit du genre. Mais ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait parce que j'avais tellement de succès dans ce que je faisais. en tant que pilote, officier de l'Air Force, et j'allais bien. Je n'avais aucune envie d'être astronaute, ou je ne me sentais pas inspiré pour être astronaute. Donc j'ai dû y réfléchir, savoir si je pouvais réussir à ça, tu sais.
Quand vous avez été sélectionné comme premier candidat astronaute noir, vous faisiez des discours, vous apparaissiez dans des magazines, etc. On peut en voir un du New York Times, juste ici affiché dans votre bureau. Vous étiez déjà assez célèbre en réalité. Mais étiez-vous déjà une source d'inspiration pour la communauté noire? Parce qu'il y avait beaucoup de protestations. Pas seulement de la part de la communauté noire, contre le fait de dépenser d'énormes sommes d'argent dans le programme spatial, alors que le pays était confronté à de nombreux problèmes sociaux. Il y a cette célèbre chanson de Jill Scott Heron, Whitey on the Moon, de 1970. Peut-être vous la connaissez. Donc, quel genre de réaction vous avez eu compte tenu du fait que, d'un côté, c'était bon pour le pays, vous aviez un astronaute noir, mais d'un autre côté, le programme spatial faisait face à de nombreux problèmes financiers?
Eh bien, j'ai vraiment été surpris par ça. C'est ce que je pensais, tu sais. Et j'étais un peu perplexe. Après coup, après avoir quitté le programme, j'ai compris bien plus qu'à l'époque, sur le moment. Mais je ne comprenais pas pourquoi la communauté noire était contre le fait d'avoir un astronaute noir. Parce qu'ils disaient, pourquoi dépenser de l'argent pour un astronaute noir alors que nous pourrions prendre ce même argent et le dépenser pour les causes noires? Mais quelque chose ne va pas avec ça. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne dépensaient pas l'argent pour moi, tu sais. Mais je recevais toutes ces critiques de la part de la communauté noire, comme s'ils le dépensaient juste pour moi. Ils gaspillaient de l'argent pour Ed Dwight, tu sais, ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, s'ils veulent inclure l'ensemble du programme spatial, c'est une autre histoire. Mais la communauté noire, pour moi, a en quelque sorte mal interprété cela, comme si on dépensait de l'argent pour Ed Dwight. Tu sais, pourquoi quelqu'un dépense tout cet argent pour ce seul gars? D'un autre côté, Dr. King, le Dr. Martin Luther King, lui, il était contre l'idée de moi tout seul en tant qu'astronaute, parce que cela servait d'excuse au gouvernement pour arrêter de dépenser de l'argent pour les Noirs. Il disait, OK, maintenant on va pouvoir arrêter de dépenser de l'argent pour le logement et l'intégration. Sauf que l'argent ne venait pas directement à moi. Mais plus tard, j'ai compris que la communauté noire avait de bonnes raisons de dire, OK, vous dépensez tout cet argent pour le programme spatial. Je me suis retrouvé pris au milieu de ça. Et d'une certaine manière, ça ne m'a pas dérangé. C'était juste, c'était préoccupant pour moi de les voir s'en prendre à ma personne. La communauté noire, certaines personnes de la communauté noire, ils ont dirigé toutes leurs critiques contre moi comme si c'est moi qui ai commencé et c'est moi qui le provoquais, ce qui n'était pas vrai du tout. Parce que le président, ce à quoi il pensait en me choisissant, il pensait que cela allait être une source d'inspiration pour les jeunes noirs à devenir astronautes, à aller en école d'ingénieurs, à faire des études scientifiques. C'était ça l'intention du président. Mais il avait besoin de quelqu'un de vivant, tu sais. Et me voilà personne vivante. Et j'avais fait l'école d'ingénieur, j'avais fait l'école de pilotage, et puis me voilà, prêt à aller dans l'espace. Tu sais, c'était ça l'intention. Mais la communauté noire, ce n'est pas ce qu'ils pensaient.
Oui, je crois avoir vu que le Dr. King était en fort désaccord avec Kennedy à ce sujet.
Oui.
C'est exactement ce que vous venez de dire.
Oui.
Nouvelle officielle, le président Kennedy est mort. Il est mort À 1h05 exactement, 35 minutes après avoir été blessé, à 12h35, à 12h25 exactement, dans la voiture lorsqu'il arrivait de l'aéroport de Dallas pour se rendre chez le gouverneur. La nouvelle est officielle, maintenant le président Kennedy est bien mort.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des conversations avec des gens de couleur, des Américains de couleur?
Oui, j'en ai rencontré plusieurs, ils sont atterrés car Poe et Kennedy étaient un ami, et pour eux ce meurtre, à l'heure actuelle, est malheureusement le signal d'une sorte de recrudescence du mouvement d'extrême droite et d'un durcissement de ceux qu'ils redoutent le plus dans le sud notamment, c'est-à-dire les organisations ségrégationnistes.
Mais ils doivent penser que si on est allé jusqu'à attenter à la vie du président des États-Unis, c'est que les adversaires de l'intégration sont prêts à utiliser les moyens extrêmes. Et donc chaque homme de couleur peut se sentir menacé.
Si le meurtre du président est bien dû à ce que l'on redoute, c'est-à-dire à un attentat des ségrégationnistes, des adversaires de l'intégration raciale, cela prouve évidemment d'abord que ces organisations ne reculeront devant rien pour manifester leur force et leur opposition, et deuxièmement qu'elles sont organisées d'une façon extrêmement puissante et extrêmement militaire.
Et juste par curiosité, avez-vous déjà rencontré le président Kennedy ?
Non, j'étais dans une pièce avec lui. J'étais dans le bureau ovale avec un groupe de personnes et je ne lui ai pas serré la main. J'étais juste peut-être à 1 ou 2 mètres de lui, mais c'est tout. Mais il y avait aussi tout un tas de gens qui me supportaient et tous les autres. Tous les principaux acteurs qui étaient derrière moi. Tous les leaders de la cause noire et tout ça. Ils étaient tous là. Mais vous pourriez penser que j'aurais été présenté à lui et que je lui aurais serré la main, mais ça n'est pas arrivé.
Vous écoutez toujours Radio Campus et nous sommes toujours ici dans cette belle ville de Denver au Colorado avec Edward Dwight Jr., ancien pilote d'essai, premier candidat astronaute noir et maintenant sculpteur et artiste.
Tu sais, Chuck Yeager, j'ai fini par le connaître vraiment très très bien. En fait, tout le monde parlait du fait qu'il était le premier type à avoir passé le mur du son. Il n'était pas un homme d'études. Il avait grandi dans une ferme. Et il s'occupait des tracteurs et des autres trucs de la ferme quand il avait 4, 5, 6 ans. C'est comme ça qu'il a fini par piloter avec beaucoup de compétences mécaniques. C'était un peu comme je vous disais à propos de moi. J'ai appris le vol, surtout en jet, très vite. Eh bien, c'est ce qu'il a fait avec tout ce qui était de l'ordre de la mécanique. Le type était un pilote incroyable, et il l'était vraiment. Mais il était le meilleur, et le meilleur pilote d'essai. Et il était directeur de l'école d'astronautes. Et le problème, c'était que le président n'était pas allé le voir, lui, en premier, en lui disant « Hey, Chuck Yeager, j'ai ce type noir et j'ai besoin de ton aide à ce sujet. » Ils ne sont jamais allés le voir et lui ont demandé s'il supporterait cette idée. C'est ce qui l'a rendu furieux. Il était en colère à cause de ça. Quand je suis arrivé là-bas, il avait juste dans sa tête que quand il m'a vu, j'étais un petit gars d'1m60. Il m'a regardé et a dit « Oh mon Dieu, ce gars-là est un gamin !» J'avais 27 ans, mais pour lui, j'étais ce petit gosse noir de la rue. Et j'étais un incapable. Il n'y avait aucun moyen que je puisse être un as du pilotage dans sa tête. Alors il s'est fait à cette idée et a dit « Je peux juste me débarrasser de lui comme quelqu'un qui écrase une mouche. On se débarrasse juste de ce gars. Tu sais, si j'étais plus grand, une personne plus grande, si je mesurais 2 mètres, il n'aurait pas pensé de cette façon. Tu vois ce que je veux dire ? Il m'aurait dit « Oh, je vais devoir continuer avec ça. » Parce qu'il avait peur que je ne l'écrase si je lui donnais du fil à retordre. Si j'étais un grand noir, ce gars pourrait me défoncer. Et donc son idée était de de mettre en place des choses qui me forceraient à démissionner. Tu sais, personne ne me parle, ne lui adressez pas la parole, ne buvez pas avec lui, faites comme s'il n'était pas là, et il sera parti dans 6 semaines. Tu sais, parce que Washington essaie de nous le faire avaler de force. Et donc, on ne va pas laisser passer ça. Et donc, ils ne m'ont pas laissé la vie facile. Mais toute l'histoire est qu'ils n'avaient pas compris qui j'étais et ce que j'étais. Et il y avait une autre chose. J'étais pris en charge par le Pentagone. Ou plutôt par l'aile ouest de la Maison-Blanche. J'avais un type à qui je pouvais parler au téléphone tous les jours, à qui je disais et rapportais tout ce qui se passait avec moi. Et c'est pourquoi j'ai continué à avoir des A aux examens et d'autres choses comme ça. Au bout d'un moment, ils ont continué ça pendant tout le temps où j'étais là. Ils n'arrêtaient pas de m'appeler, de me dire que quelqu'un essayait de me tuer. Et le plan, c'était de me tuer, parce que le président, enfin, tout ce que ces gens voulaient, c'était la nomination d'un astronaute noir était suffisante, et cela rendrait la communauté noire heureuse, d'accord ? Mais si je meurs, c'est de ma faute, ce n'est pas de sa faute. Donc ils n'arrêtaient pas de me répéter encore et encore qu'ils étaient là pour me tuer et que je devrais démissionner avant qu'ils ne me tuent, tu sais. Mais c'était tout au long du programme. Ils ont continué, tu sais, mais ça ne m'a pas dérangé du tout. Je leur ai juste dit d'aller en enfer.
Didn't bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms begin to swell, and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man that's up my rent last night, Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. He's up in me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him like 50 a week, and Whitey's on the moon. Tax is taking my whole damn check. The junk is making me a nervous wreck. The price of food is going up, and if all that crap wasn't enough, a rat didn't bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms begin to swell, and Whitey's on the moon. Is all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey on the moon. You know what? I just about had my fill of Whitey on the moon. Think I'll send these doctor bills. L-Mail special.
Laissez-moi vous montrer cette image que vous connaissez sûrement. C'est une photo, probablement de 1963, quelque chose comme ça, de votre groupe de candidats astronautes à l'école de pilotes d'essai.
Ah oui.
16 pilotes d'essai sur cette image, où vous êtes tout en bas à droite, et à gauche, seulement à côté de 3 ou 4 personnes de vous, on voit David Scott et James Irwin,
oui,
qui étaient dans le même groupe que vous, et qui tous les deux ont ensuite marché sur la Lune à bord d'Apollo 15 en 1971. Est-ce que je peux vous demander comment ils étaient? Et est-ce qu'ils vous parlaient, ou est-ce qu'ils suivaient les instructions de Jaeger à propos de ne pas du tout sociabiliser avec vous?
Non, ce qui a fini par se passer, David Scott, ce qui était vraiment intéressant, lui et moi, nous étions des amis secrets. James Irwin ne parlait à personne. Il était le solitaire de la classe. Et il gardait tout pour lui, tout le temps. Et quand il passait les entraînements, il a fini par mourir à 61 ans d'une crise cardiaque. Il avait un cœur faible pendant tout son entraînement. C'était un gars très calme, pas social, mais il ne parlait à personne. Tu sais, parce que dans certains cas, tu avais des copains-copains, deux gars, trois gars qui passaient beaucoup de temps ensemble. Dave, il était mon ami secret, et nous parlions, et Dave parlait tout le temps. En réalité, j'ai été surpris quand, après qu'il soit allé sur la Lune, il a dit quelque chose, c'était dans les années 80-90, quelque chose comme ça. On l'a interrogé sur moi et il a dit quelque chose qui m'a surpris. Il a dit que j'étais nul en tant qu'élève, que je ne pouvais pas voler et je n'en croyais pas mes yeux. Il reprochait au gouvernement de m'avoir choisi. Et c'était après qu'il soit parti et ait fait tous ces trucs dans l'espace. Ce fut un choc pour moi. Parce qu'à Edwards, lui et moi, parce qu'il n'arrêtait pas de le dire à tout le monde, Dave était un général et il avait fait West Point. Il avait obtenu un diplôme au MIT. Il avait tout, tout ce à quoi vous pouviez penser. Dave, c'était Dave Scott. Et tout le monde savait dans la classe que Dave allait être choisi. Tout le monde, je veux dire. À partir du moment où Dave est entré dans l'école, tout le monde a supposé que Dave s'était tout assuré parce qu'il avait un diplôme de l'Académie militaire et un diplôme du MIT. Il avait tout ce dont on a besoin pour être astronaute. Et donc, il venait me voir et il m'appelait Eddard, pas Edward, mais Eddard. C'était son surnom pour moi. Et donc, il m'appelait. On leur avait dit de ne pas m'appeler, mais nous parlions au téléphone. Et ça a duré pendant tout l'entraînement. Il me disait, seulement deux d'entre nous vont sortir de là, Ed. Tu vas être choisi et je vais être choisi. Ça va être toi et moi. Et ensuite, la soirée avant qu'il ne fasse l'annonce, il a été choisi dans la soirée pour passer de l'école de pilote d'essai à... Eh bien, laissez-moi expliquer. Il y avait deux programmes d'astronautes, d'accord ? Un était la NASA. Et le président Kennedy est allé voir Wernher von Braun, l'ingénieur en chef de la NASA à l'époque, et lui a demandé... Je veux mettre ce gars noir dans l'espace. Et Wernher von Braun a dit non, parce que cela détruirait la NASA avec des débats raciaux à la NASA. Non. Alors le président a créé un autre programme spatial, d'accord ? Donc la veille de l'annonce de la sélection pour ce programme, qui était le programme de pilote de recherche aérospatiale, après avoir obtenu votre diplôme de l'école de pilote d'essai, vous entriez dans le programme d'astronaute de l'Air Force. Il y avait donc deux programmes d'astronautes. Et la veille au soir, Dave m'a appelé et m'a dit, il n'y en aura que deux qui seront choisis. Et ce sera toi et moi. C'était la veille de cette sélection. Nous étions sur cette liste pour rentrer dans le programme spatial de l'Air Force. Il y avait aussi d'autres personnes, mais c'était ce que Dave pensait. Et nous, je pensais juste que nous étions, que nous avions développé une relation. Après qu'il soit allé dans l'espace et qu'il soit revenu, ils l'ont interrogé sur moi. Il a dit que je n'étais rien, que je n'étais pas un bon pilote, ce qui est ridicule, tu sais. J'étais septième de la classe de pilote d'essai. Nous étions 17. J'ai obtenu mon diplôme en étant septième sur 17. Qu'ils me disent que j'étais si mauvais, que je n'aurais même pas été pris en compte. Il y avait un classement de ce groupe que tu as vu. Il y avait le classement. Tous ces gars-là, et j'étais septième de ça. Il y avait 10 gars qui étaient en dessous de moi, en d'autres termes.
out of that. So there were 10 guys who were below me, in other words.
Dave et moi aurions été dans le groupe. Cela aurait dû être le calendrier pour marcher sur la Lune. Et bien sûr, toute cette affaire a été retardée. Et puis bien sûr, plus tard, j'ai démissionné. Donc cela n'aurait fait aucune différence dans un sens ou dans l'autre. Si j'étais resté, si j'étais allé à la NASA avec Dave, cela aurait été une autre histoire. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste été promu au programme d'astronaute de l'Air Force et j'ai terminé cette formation.
Avez-vous encore des contacts avec David Scott ?
Non, non. En fait, une fois qu'il est allé à la NASA, ça s'est arrêté. Tout contact avec lui s'est arrêté.
Okay, très bien. J'imagine que vous savez tous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui et pourquoi nous sommes ici. Nous aimerions vous présenter le nouveau groupe de 14 astronautes que nous sommes en train de sélectionner depuis les 4 derniers mois environ. Très bien. Avec tout cela, je vais laisser chacun se présenter de droite à gauche.
Capitaine David Scott, US Air Force, stationné à la base aérienne d'Edwards, en Californie. Ville natale, La Roya, en Californie.
Très bien. Nous allons maintenant prendre les questions.
En parlant d'intégration, y avait-il un négro, la trentaine environ, que vous avez envisagé de prendre ici ?
Non, il n'y en avait pas.
At the time, blacks in America.
À l'époque, les Noirs en Amérique avaient beaucoup de problèmes à se faire reconnaître. L'idée, en Amérique, d'avoir un astronaute afro-américain noir était tout simplement folle. L'idée était folle. Et donc, j'ai dû me battre une fois que j'ai été nommé. Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas d'un astronaute noir parce qu'ils pensaient que c'était trop tôt. Parce que l'Amérique, tous les pionniers et tous les gens qu'on a retenus pour avoir fondé l'Amérique et découvert toutes ces choses-là, etc., étaient tous des blancs. Et donc l'idée de reconnaître pour ça une personne noire, l'Amérique a dit « Non, on ne va pas faire ça ». Et donc j'ai eu beaucoup de problèmes. Et le président, il a fait de son mieux pour essayer de convaincre l'Amérique que nous étions prêts. Mais il a fini par se faire tuer. Et donc, une fois qu'il s'est fait tuer, mes chances, je n'avais personne pour me soutenir. Ils ont essayé, ils voulaient juste se débarrasser de moi. Et les choses qu'ils ont faites pour se débarrasser de moi était extrêmement nuisible. Il y a beaucoup de choses qu'ils m'ont faites à moi et à ma famille qui n'étaient pas acceptables. Alors, je suis parti, j'ai quitté le programme et l'Air Force et je suis entré dans la vie civile. Et après mon départ, j'ai fait beaucoup de choses avec la NASA. J'ai fait beaucoup d'expériences pour la NASA. J'étais pilote 0G pour la NASA, pour toute la formation 0G, en apesanteur des astronautes. Et puis j'avais 23 projets de la NASA, après avoir quitté le programme d'astronautes de l'Air Force. J'avais 23 projets, principalement des projets de la NASA. Et puis toute la politique a continué. Et ils ont commencé à écrire, à mettre des mauvaises informations dans mes archives. Ils ont essayé de me mettre en prison et ils ont essayé de me tuer. Et donc c'est à ce moment-là que je suis parti. Quand j'ai découvert qu'ils essayaient de me tuer, j'ai tout simplement démissionné. J'ai dit non, ça suffit. Et j'avais plusieurs entreprises quand j'ai quitté l'Air Force. J'avais environ 3 ou 4 business, tu sais. Et puis plus tard, j'ai toujours été un artiste à côté, tu sais, depuis que je suis gamin. Et donc, à 45 ans, ça semble fou, mais on m'a offert une opportunité de devenir sculpteur.
À suivre. Ce programme est disponible en replay sur notre site internet orleans.radiocampus.org.
Personal imagination that failed care, running here, be there, 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 there. I'm overwhelmed again and again, again and again, again and again. The same memory, the same moment, the same event, again and again. This one situation that I repeat in my imagination, again and again, the same point that I stumble over.
city. We climbing across the buildings and the pavements, not too different from the rodents using the tubes as their havens. Easy to get high from the lights and gas from magazine placements. Harder to realise the weapon has to sustain things without fake. Easy to look the part a few months later, picked apart, gets clearer over time. Their balls way past the goal line. I'd rather take my time in a city that never stops thinking not to think. As the contradictive plot thickens, blink once or twice, it's a risk. Gotta keep eyes opening abyss and ears to the ground and ray forward like mice. Knowing London's built on a contradiction of hard steel and thin ice, surrounded by the dark water that absorbs and reflects light.
When in Rome, anything goes. Friend or foe, gotta get that dough. Go, go, get your dough. Everyone knows there's a legendary treasure trove.
On a ladder, hanging a disco ball. shop, making common mistakes at your workplace. If you don't feel like talking while you're on the clock, on the clock, do your job and some personality. Life is but a chore, but together it's harder to approach. Knew when I saw you, exit, looking for the stairs, emergency exit. Let me just